Radio 1. Premier sur l'info, l'info locale.
Allez, c'est parti avec les titres de votre journal local de 7h30, présenté par Olys Glaise. Bonjour Olys.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Clap de fin pour le tournage de Koh-Lanta au Fénouin. Un tournage en forme d'exploit, ont assuré les producteurs de l'émission depuis les locaux d'Air Tahiti. Oui, vendredi, vous entendrez l'animateur du programme, Denis Brognard, dans ce journal. Véritable effervescence samedi à une vente aux enchères à Tiperui. Au total, plus de 180 lots ont été vendus à une centaine de particuliers. Reportage dans ce journal. Et puis enfin, Météo France mène une étude de faisabilité sur l'installation du premier radar météorologique au Fénouin. Les explications dans cette édition.
Au Fédois, ce sera une cuvée d'exception, assure Denis Brognard.
Et oui, clap de fin pour le tournage de l'émission d'aventure au Fénois. Les équipes de Koh-Lanta sont arrivées au terme du tournage entrepris en octobre entre Ta et Rayatea avant de s'envoler vers Paris via leur partenaire ATN. Denis Brognard a livré son sentiment sur cette nouvelle saison qui devrait être diffusée sur TF1 au cours du premier semestre de l'année prochaine. Écoutez-le.
Ouais, j'ai été très impressionné par effectivement cette beauté de la Polynésie. Je ne l'avais vu qu'à travers les cartes postales ou des films, des documentaires. Les motus, assez impressionnés par les lagons et puis évidemment la population. Même si on a été obligé de respecter une distanciation, il y a une chaleur, il y a une qualité d'accueil que franchement moi j'ai quasiment jamais vu. Quand vous mettez l'accueil, plus la beauté des paysages, plus des candidats qui sont prêts à en découdre avec des règles que vous connaissez et qui plaisent aux téléspectateurs, je pense qu'on est à l'orée d'un grand cru, en tout cas je l'espère.
Un tournage en forme d'exploit et qui a duré que 2 mois, une exception donc, mais qui avait bien évidemment des conditions, exclure notamment tout risque de propagation du coronavirus. Pas facile pour un tournage qui mobilise autant de monde. Écoutez Alexia Larojoubert, présidente de la société Adventure Line Productions.
Koh-Lanta, c'est à peu près 150 personnes qui viennent de métropole et on a travaillé avec 200 personnes des différentes îles. Tout ça dans un respect des gestes barrières drastiques, puisque en effet, il fallait créer une bulle de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque de contamination de nous arrivant de métropole à la population ou de certains cas de la population à nos équipes. Et d'ailleurs, je remercie tous les Polynésiens parce qu'au-delà de l'accueil incroyable et des compétences qu'on a pu rencontrer, il y a eu aussi une rigueur dans ces gestes barrières qui nous a permis d'aboutir ce tournage.
Et boustouflé par le cadre polynésien et les rencontres locales, l'équipe promet que la prochaine saison diffusée dans quelques mois sera une belle campagne de promotion de la destination.
Chaque fois que Koh-Lanta va quelque part, le tourisme se développe. Aux Philippines, ça a été un développement assez considérable après notre tournage à Palawan. Même aux Fidji, j'en avais discuté avec l'ambassadeur de France là-bas, il y a des Français qui ne savaient même pas où étaient les Fidji sur la carte, qui se sont décidés à y aller après avoir vu des images. Je pense que Koh-Lanta, ça va permettre d'enlever pas mal de stéréotypes et peut-être d'amener un peu plus de touristes ici, même si, que ce soit à Rayatea ou à Ta, et même à Bora Bora, que je ne connaissais pas et où j'ai passé quelques heures, c'est que je pense qu'il y aura du tourisme, mais ce sera un tourisme toujours calculé et régulé, je crois.
Des propos recueillis par Charlie Rennie.
Les ventes aux enchères attirent toujours les amateurs de bonnes affaires.
Un 4x4 impeccable, du moins en apparence, des fours, des frigos de grande capacité ou encore des sacs à dos Pokémon. Plus de 180 lots ont été vendus au plus offrant samedi par maître Laura Chevalier, commissaire priseur de Polynésie depuis le début de l'année, en professionnel particulier et surtout habitué. Au total, c'est plus d'une centaine de personnes qui ont fréquenté son local de Tiperui pour dénicher la bonne affaire. Les enchères sont aujourd'hui beaucoup plus cadrées, mais le succès, lui, est toujours là. Écoutez la commissaire priseur.
9 000, je pense que ça a toujours eu beaucoup de succès. Hein. Les gens sont toujours friands de bonnes affaires. Ben, je pense que c'est l'attraction des prix. Tout le monde peut venir, hein. C'est vraiment une vente publique. On organise généralement une visite la veille, hein, le vendredi après-midi. Et après la vente, bien sûr, c'est le samedi. Il y a une mise à prix qui est évidemment sous-évaluée. Et puis après, chaque lot est adjugé au plus offrant directement pendant la vente.
La plupart des lots présentés étaient issus de liquidations de 4 sociétés, des liquidations qui n'auraient aucun rapport avec la crise sanitaire.
Alors pour l'instant, tous les dossiers que j'ai actuellement ne sont pas encore liés directement à la crise sanitaire, si c'est votre question. Il y a toujours des liquidations judiciaires, bien sûr, mais il y a également des saisies et des ventes volontaires. Alors en fait, la fréquentation, elle dépend vraiment des ventes aux enchères qui sont organisées et des sociétés. Aujourd'hui, il y avait des super véhicules, donc évidemment des personnes qui ne viennent que pour les véhicules. On avait également du matériel de cuisine, donc ça cible plus les restaurateurs. Voilà, en fait, c'est vraiment aléatoire et ça dépend vraiment des thèmes des ventes aux enchères.
Un samedi, ce sont surtout les véhicules, le matériel de cuisine et quelques stocks de téléphonie qui ont concentré l'attention. La prochaine vente, justement, aura lieu le 19 décembre à Tiperui. Elle rassemblera principalement des objets saisis par les douanes.
Et on continue ce journal avec cette question. Wallis, bientôt un radar météo au Mont Marao?
Eh oui, tout part des observations. En tout cas, les prévisionnistes ont beau avoir à la disposition des relevés satellites toujours plus précis, ils ne peuvent se passer des stations météorologiques. Au Fénois comme ailleurs, Météo France a tissé au fil des années un réseau de stations pour se fournir en données. Ainsi, de nouvelles stations automatiques doivent être installées dans les mois à venir, ainsi que de nouveaux bateaux qui vont être équipés. Écoutez Arnaud Miquenion, responsable de la division observation.
Pourquoi ? Pour densifier le réseau, parce que plus on a de points de mesure, mieux on voit la situation en temps réel météorologique. J'en veux pour preuve tout l'effort qui est porté sur l'homogénéisation du réseau, du quadrillage, qu'on peut avoir à Apiti, à Moréa, une précipitation très intense par flux d'ouest, alors qu'à Moréa, à Hérault, on a une précipitation plus faible. Autrement dit, cet exemple nous donne bien la preuve qu'il faut installer un grand nombre de stations pour échantillonner au mieux la situation météorologique.
Météo France mène une étude de faisabilité sur l'installation du premier radar météorologique du Fénois. Si le projet, lui, est validé, le radar pourrait être implanté d'ici 2 à 3 ans.
Oui, un radar assurerait 2 missions, la mission aéro, qui nous permettrait d'inclure dans nos messages météorologiques une information automatique de présence de nuages convectifs, autrement dit les cumulonimbus, et nous permettrait d'assurer une mission de sécurité des personnes et des biens, avec une information sur l'intensité des précipitations en cours dans un rayon de 250 km autour du point d'implantation du radar. C'est une prévision à courte échéance, j'insiste bien, c'est une prévision à courte échéance qui nous permettra de pouvoir prévenir la population ou bien le HC ou le PC de crise du HC.
Un des propos recueillis par Charlie René.
Ça, c'est un truc qu'il va falloir que je replace. T'as vu ce nuage ? Il est de forme convexe.
87, 25, 25.
Allez, on continue votre journal. On termine avec le fromage de la presqu'île qui débarque à la table du réveillon.
C'est la toute première fois que Juliette Lamy, qui a lancé sa fromagerie à la presqu'île en 2016, parvient à proposer pour les fêtes de tels plateaux de fromage confectionnés dans son propre atelier. Du 100% local pour le réveillon, se félicite la professionnelle du crémeux satin haïtien qui se décline truffé ou affiné au rhum en passant par la tome locale nature ou parfumé à la papaye ou encore aubérose. C'est ce que propose en tout cas la fromagère de Tahiti avec 2 assortiments de ses produits au lait de la presqu'île. Ces assortiments sont présentés sur des plateaux en pandanus tressés par le centre d'accueil des adultes handicapés. Écoutez-la.
Cette année, oui, je propose des plateaux qui sont faits avec le... Donc les plateaux en pandanus sont tressés par le centre handicapé de la presqu'île, qui est juste en face de la fromagerie. Ils font de l'artisanat et ils tressent le pandanus, voilà. Et ça permet en fait de soutenir leur action parce que j'en ai commandé 200 et moi je mets mes fromages, donc évidemment c'est que des fromages faits localement avec le lait de la ferme Tarabao, agrémenté avec des noix, etc. Et le Saint-Haïtien truffé et puis une tome que locale.
9500 francs, c'est le prix, c'est le grand plateau. 5500, c'est le petit plateau. La livraison, bien évidemment, est sur Tahiti, comprise en attendant une boutique en ligne sur le site de la fromagère. Les réservations de plateaux se font par mail uniquement. lafromagèredetahiti@gmail.com. Les Saint-Haïtiens et Tom sont aussi à retrouver dans plusieurs magasins de Tahiti, dont la cave Tamano à Punaouia et le U-Express et Cécile de Papeete. Voilà, on finit par cette touche de gourmandise avec le fromage par ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.